En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Un nouveau cycle de conférences intitulé « Penser le présent » sera désormais retransmis sur Canal Académie. Ces conférences ont été organisées dans les salons de la mairie du 1er arrondissement de Paris par le comité municipal d'action culturelle de ce même arrondissement, présidé par Carla Rigoni et inauguré par le maire Jean-François Legaret. Cette première conférence, qui reçoit le philosophe universitaire, homme de lettres, ancien ministre, Luc Ferry, aborde la question de la crise de la transmission. Bérénice Levet, docteur en philosophie, qui a reçu le 6 décembre 2012 le prix Montyon de philosophie et de littérature 2012 décerné par l'Académie française, ainsi que le prix de philosophie politique Perrault-Saucine en 2012 pour son ouvrage « Le musée imaginaire d'Anna Arendt », apporte les précisions suivantes. Penser le présent, qui aura le plaisir de recevoir prochainement Pierre Rosenberg de l'Académie française, a pour objet de repérer, d'identifier ce qui, dans notre époque, demande à être pensé. Or, l'une des choses qui demande, semble-t-il, impérieusement à être pensée aujourd'hui est la question de la transmission. Canal Académie vous invite à découvrir cet échange autour de la transmission et des questions qui se posent aujourd'hui sur ce sujet aux enseignants, aux élèves, à leurs familles. Je vous laisse donc en compagnie de Bérénice Levet et Luc Ferry.
Je pense qu'on pourrait partir d'une précision concernant le terme « transmission ». Cette notion est aujourd'hui fort utilisée, galvaudée. Donc je tiens à préciser que « transmettre », mais là aussi j'aurais besoin de votre éclairage conceptuel, « transmettre » désigne une activité bien spécifique, ce n'est pas sensibiliser, comme on le dit beaucoup aujourd'hui, notamment dans les écoles. On sensibilise notre jeunesse à beaucoup de choses et on l'instruit peu. Donc transmettre, ce n'est pas sensibiliser, ce n'est pas divertir, ce n'est pas non plus communiquer un message. Et je ne suis pas sûre que, enfin je suis même assurée que les journées du patrimoine ne sont pas un lieu de transmission. Donc il n'est de transmission véritable qu'en vue d'une appropriation, d'une incorporation du savoir qui est transmis, et cela suppose que ça se fonde à la substance de la personne. Donc transmettre, c'est, et je vais prononcer un mot qui est banni de notre vocabulaire, et j'interrogerai justement Luc Ferry sur l'usage qu'il est disposé à en faire, transmettre, c'est former des héritiers. Pourquoi le mot d'héritier me semble approprié? C'est que précisément il s'agit de faire sien, de faire fructifier quelque chose dont on hérite. Et l'héritier, c'est justement celui qui, pour reprendre une distinction dont on escamote aujourd'hui le sens, un héritier, c'est quelqu'un qui a une tête bien faite et bien pleine, parce qu'on tente à opposer, en s'inspirant de Montaigne, la tête pleine et la tête bien faite. Or, Montaigne ne nous a jamais dit qu'une tête bien faite était une tête vide. Mais en revanche, c'est un processus d'incorporation. On va chercher à savoir ce qu'il en est véritablement aujourd'hui de ce processus. Quant à la nécessité, le devoir de transmettre, eh bien, il repose aussi sur une certaine idée de l'homme. Et là, nous interrogerons sur la pérennité de cette idée. C'est que l'homme, l'enfant, en naissant, entre dans un monde qui était là avant lui, par rapport auquel il est un nouveau venu et qu'il va falloir lui apprendre à connaître et surtout lui donner à aimer. Et là aussi, je ne suis pas sûre que nous nous y employons véritablement. Donc, ce sont toutes ces questions que nous travaillerons. Alors maintenant, pourquoi j'ai choisi d'inviter Luc Ferry pour poser cette question, pour mettre à l'épreuve cette hypothèse d'une crise de la transmission? C'est d'abord que Luc Ferry, et sans flagornerie aucune, n'est pas de ceux qui ont signé la reddition. On peut dire qu'il œuvre avec ardeur et avec talent, avec succès, à transmettre ce que précisément lui-même a acquis de connaissances et de compréhension, à transmettre l'histoire de la philosophie évidemment, mais pas seulement, puisque vous nous avez aussi transmis le sens de la beauté, vous avez consacré des ouvrages, et j'espère qu'on terminera sur cette question-là, puisque vous venez de publier un ouvrage en parallèle à l'exposition qui se tient au Grand Palais sur la Bohème, et vous nous transmettez aussi la passion de penser. Je vous ai ensuite invité en tant que co-auteur avec Alain Renaud de la pensée 68, car cette crise de la transmission, si crise il y a, on peut en dresser l'acte de baptême, non dans l'événement de mai 68, c'est précisément ce que l'on doit à Luc Ferry, c'est que il y a dans la décennie 60-70 une constellation de philosophes qui se forment et qui vont nous donner le substrat pour précisément peut-être saccager les bases de la transmission. Je tenais aussi à préciser que cet ouvrage, La pensée 68, porte pour sous-titre l'anti-humanisme contemporain, et si effectivement il y a un renoncement à la transmission, c'est une rupture avec notre héritage humaniste, avec l'humanisme de la Renaissance. Et donc enfin, c'est votre expérience d'ancien ministre de l'Éducation nationale que je solliciterai, parce que on peut dire que vous avez été peut-être le premier à mettre les pieds dans le plat, pour parler trivialement, et à regarder les choses en face, à faire adresser un état des lieux sur la situation de l'école qui rompait avec une certaine dénégation. De là donc les premières questions que je vous poserai. D'abord, partagez-vous ce diagnostic d'une crise de la transmission? En quel sens l'entendez-vous? Mais ce sera aussi l'objet de toute notre discussion. Ensuite, ce lien que je suggère d'établir entre la pensée 68 et une éventuelle crise de la transmission, l'acceptez-vous? Et puis, donc, question subsidiaire, ce mot d'héritier, quel usage êtes-vous disposé à en faire?
Oui, bien sûr qu'il y a une crise de la transmission. Les causes en sont délicates à comprendre. Mais peut-être pour commencer à planter le décor et vous présenter un paysage cohérent à partir des questions que vous venez de poser, d'ailleurs très bien. Je dirais que nous avons vécu au XXe siècle, c'est la première remarque et c'est bien avant la pensée 68 que ça commence, nous avons vécu un siècle de déconstruction, de liquidation des valeurs traditionnelles comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Si vous rentrez chez vous, en rentrant chez vous tout à l'heure, vous regardez vos livres d'histoire, vous regardez le déclin de l'Empire romain, la Révolution française, c'est, si je puis dire, une plaisanterie à côté de ce qu'on a vécu au XXe siècle en termes de déconstruction des traditions, des autorités et des valeurs traditionnelles. Je précise tout de suite, quitte à décevoir certains d'entre vous, ça n'est pas toujours pour le pire, c'est souvent pour le pire, notamment en matière scolaire, mais parfois pour le meilleur. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure, car cette déconstruction des traditions s'est accompagnée aussi de mouvements d'émancipation, notamment de l'émancipation des femmes, qui à mes yeux sont éminemment positifs, ces mouvements d'émancipation. Mais nous avons, pour caractériser les choses très simplement, je prends un tout petit peu de temps au début, si vous permettez, pour que simplement ce soit cohérent, nous avons vécu une déconstruction des traditions, notamment dans l'histoire des avant-gardes, dans l'histoire de l'art moderne. Nous avons cassé la figuration en peinture avec les deux pères fondateurs de l'art moderne qui sont d'un côté Picasso, de l'autre Kandinsky, Picasso pour le cubisme, Kandinsky pour l'art abstrait. On a cassé la tonalité en musique avec l'école de Vienne, avec Schoenberg, jusqu'à Pierre Boulez aujourd'hui. On a cassé les règles traditionnelles du roman, avec ça commence avec Joyce au fond, mais ça s'épanouit avec ce qu'on a appelé le nouveau roman. On a cassé les règles ou déconstruit les règles traditionnelles de la danse avec Béjart, avec Pina Bausch en Allemagne, les règles traditionnelles du théâtre avec Ionesco, avec Beckett. On a essayé même de casser les règles traditionnelles du cinéma, pour autant qu'on puisse parler de règles traditionnelles du cinéma, avec Jean-Luc Godard et ce qu'on a appelé la nouvelle vague, les cahiers du cinéma. Et c'est vrai qu'en mai 68, on a essayé de déconstruire ce qu'on appelait la morale bourgeoise, les grandes visions morales du monde, qu'elles fussent d'ailleurs ces grandes visions morales du monde religieuses ou laïques et républicaines. C'était la cible de la contestation en mai 68. Et donc on a une histoire au XXe siècle de la déconstruction des traditions avec à l'intérieur de ce grand mouvement de déconstruction, si je ne parle pas simplement de la haute culture, de l'histoire des avant-gardes, de l'histoire de l'art, de l'histoire intellectuelle, et si je regarde la vie quotidienne des Européens et singulièrement des Français, il y a à l'intérieur de ce mouvement de déconstruction des traditions deux mini-révolutions très importantes dont on ne parle pratiquement jamais. D'un côté, ce que les historiens n'hésitent pas à appeler la fin des paysans. Il y avait 6 millions de paysans dans la France de mon enfance, dans les années 50. Il reste très exactement aujourd'hui 312 000 exploitations agricoles. Les paysans représentaient une classe sociale, une corporation, peu importe comment on l'appelle, Il représentait une classe attachée aux traditions, attachée à la terre. Et cette diminution par 10 du monde de la paysannerie, du monde rural, en à peine 50 ans, est un phénomène majeur parce que ça ne change pas simplement le paysage géographique, physique et naturel du pays, ça change aussi le paysage moral, intellectuel et politique du pays. Un de mes amis, un de nos grands professeurs de sciences politiques, c'est pas ma tasse de thé la science politique, mais enfin j'ai un peu enseigné à Sciences Po dans une période bien antérieure et dirigeait le département de sciences politiques de Sciences Po Lyon, donc obligé de m'intéresser un peu à ces affaires de sociologie électorale. Et mon ami Roland Kayrol, donc que vous connaissez, même si vous connaissez pas son nom, vous l'avez vu X fois à la télévision commenter des soirées électorales, qui est un homme fort intelligent, me faisait observer que dans les années 50, la première ligne dans les enquêtes d'opinion politique, c'était la ligne agriculteur, et qu'aujourd'hui, elle a disparu des sondages parce que ça n'est plus suffisamment représentatif. C'est un signe, c'est un symbole, un symptôme. Et quand je regarde le village dans lequel j'ai passé mon enfance, pas très loin de Paris, à 70 km de Paris, dans le Vexin, petit village où il y avait 500 habitants, il y avait deux voitures, celle du maire de la ville, et enfin du village plutôt, et celle de mon père qui était pilote de course. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est juste pour vous donner le paysage. Je me souviens que les paysans faisaient les foins à la faux ou même à la faucille. Quand je dis ça à mes filles qui ont 12 ans, 13 ans, d'abord l'expression « faire les foins » ne leur dit absolument rien. Elles ne savent ni ce que ça signifie ni à quoi ça sert. Quant à la faucille, elles n'en ont jamais vu ailleurs que sur le drapeau du Parti communiste. Et encore, faut se dépêcher. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, comme vous voyez. Et puis la deuxième révolution, je me souviens que les femmes, évidemment, tout le monde sait ça, je vois quand même quelques cheveux blancs dans la salle ou quelques absences de cheveux, pardonnez-moi, mais on a le même âge, ou parfois un peu plus ou un peu moins, mais on a connu cette France des années 50. Eh bien, pour beaucoup d'entre vous, vous vous souvenez qu'évidemment, dans tous les villages de France, les femmes faisaient la lessive au lavoir, tout simplement, avec des espèces de battoirs qui ressemblaient à des raquettes de ping-pong. Là aussi, quand je dis ça à mes filles, elles ont l'impression que je sors de Jurassic Park. Ça leur paraît tout à fait inimaginable qu'on fasse la lessive ailleurs que dans une machine à laver. C'est juste pour nous rappeler les choses que je cite ces petits repères, ces petites bornes sur un chemin qui est celui de la déconstruction des valeurs traditionnelles. Et évidemment, la deuxième révolution qui est très importante et qui, à mes yeux, est très positive pour le coup, c'est la révolution des femmes. La condition féminine a changé en Europe davantage en 50 ans qu'en 500 ans. J'étais l'autre jour en Suisse, pour des raisons, je le précise, par les temps qui courent, parfaitement honorables, et dans un canton germanique, qui est en effet un canton un peu archaïque, qui s'appelle Lappenzell, et le maire de la ville, qui me recevait gentiment, comme notre maire tout à l'heure, me faisait observer, à ma demande d'ailleurs, que les femmes suisses de ce canton obtiennent le droit de vote, tenez-vous bien mesdames, le 28 avril 1991. Là aussi, quand je dis ça à ma fille, elle me regarde comme si je sortais peut-être pas du Jurassic Park, parce qu'il n'y avait pas d'humains, mais des pierres à feu. Elle a le sentiment, ma grande fille qui a 21 ans, elle est née justement en 91, eh bien elle a le sentiment que ses parents ont vécu dans un monde qui est pour elle presque inimaginable. Dans un pays démocratique comme la Suisse, beaucoup plus démocratique à bien des égards que la France, pays tout à fait culturellement européen, un mélange d'Italie, de France et d'Allemagne sur le plan culturel, eh bien les femmes, il y a 20 ans, étaient encore considérées comme des enfants. Chez nous, c'est venu un peu plus tôt, mais souvenez-vous que lorsque le président Giscard d'Estaing accède à l'Élysée et qu'il crée le premier secrétariat d'État à la condition féminine avec Madame Giroux dans le rôle-titre, eh bien, l'homme, bien sûr, est encore le chef de famille et la femme est obligée, dans un régime normal de la communauté, de demander une autorisation de son chef de mari pour ouvrir un compte en banque ou même pour prendre la pilule, qui est assez amusant là aussi vu d'aujourd'hui. Donc on a vraiment des évolutions, encore une fois, qui sont, comment dire, contrasté. Sur le plan scolaire, cette déconstruction des traditions va entraîner de véritables catastrophes. Peut-être nous en parlerons tout à l'heure. La principale catastrophe, c'est la montée en puissance de l'illettrisme. Nous avons en gros 35% de nos enfants à des titres divers. Il y a une hiérarchie, il y a des degrés. Mais 35% de nos enfants à l'entrée en sixième, donc à l'âge environ de 11-12 ans, sont en très grande difficulté de lecture, environ 7 à 8% d'entre eux sont complètement analphabètes, environ 15% de plus sont des lecteurs très lents et peu fiables, 15% encore sont des lecteurs fiables mais tellement lents qu'ils ne peuvent pas lire un livre ou même un article de journal par plaisir et en comprendre le sens parce que l'activité de déchiffrement est tellement absorbante pour eux qu'ils ne perçoivent pas le sens de ce qu'ils lisent. Ils peuvent lire un panneau indicateur, mais pas véritablement un livre, ni même un article de journal. Et donc, on a là une très grande difficulté qui est largement liée à cette histoire de la déconstruction des traditions. Je vous dis d'ailleurs tout de suite pourquoi. Rien n'est plus patrimonial, si vous y réfléchissez, que deux éléments de l'éducation. La politesse, pour l'appeler par son vieux nom, ou la civilité, comme on dit aujourd'hui, et de l'autre côté, la langue maternelle. Aucun d'entre nous dans cette salle n'a inventé le français. Rien n'est plus traditionnel que les règles de grammaire. Les choux, hibou, genou, caillou, ça s'apprend par cœur. Les règles d'accord du participe, nos hommes politiques ont énormément de mal à les appliquer, mais c'est déjà un signe de grand déclin. Le nombre de fautes d'accord du participe avec l'auxiliaire à voix. Moi, ça me choque comme une fausse note dans une ballade de Chopin. C'est pas audible. En plus, c'est une forme de bêtise, parce que c'est-à-dire qu'on comprend pas ce qu'on dit quand on fait une faute d'accord du participe. Ça me gêne énormément, mais c'est vrai que c'est très peu maîtrisé aujourd'hui et que tous ces éléments étaient des éléments patrimoniaux. C'était un héritage, c'était une tradition. Je vais dire les choses très simplement. La créativité en matière de grammaire, ça s'appelle les fautes d'orthographe. Et c'est à peu près la même chose en matière de politesse. Quand vous terminez une lettre et que vous dites « Madame, Monsieur, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs », zéro créativité. Et donc on a, si vous voulez, dans les années 70 en particulier, à la fois la déconstruction des traditions et ce qu'on a appelé la rénovation pédagogique qui sera, à mes yeux, assez catastrophique dans ses conséquences. Et puis, simplement pour, là encore, ouvrir deux pistes, je ne vais pas les développer, la grande question, bien avant mai 68, la grande question, c'est la question de savoir pourquoi cette déconstruction a caractérisé l'Europe du XXe siècle, pas la Chine du XVe, pas l'Inde du XVIIIe, pas l'Europe du XVIIe. C'est vraiment le XXe siècle européen. C'est typiquement européen et moderne. Après, ça s'étend au reste du monde. Mais c'est cette Europe du XXe siècle qui va à la fois inventer le modernisme en art et déconstruire les traditions. C'est les deux faces d'une même médaille. Innovation d'un côté, déconstruction de l'autre vont ensemble. Pourquoi en Europe, pourquoi au XXe siècle? Il y a deux histoires qui expliquent cela. Et elles sont très passionnantes toutes les deux. L'histoire de l'invention de la vie de Bohème, c'est-à-dire la préhistoire de mai 68. Dans les années 1830, à Paris et nulle part ailleurs, on voit des jeunes gens, des poètes, la plupart des étudiants, des poètes, des musiciens, des peintres, des jeunes gens déjà barbus et à cheveux longs. Ils vont participer à la bataille d'Hernani aux côtés de Victor Hugo. Ce sont des jeunes romantiques, ils sont de cette période du romantisme très particulière à la France, inconnue de l'Allemagne et de la Suisse, qui va être un romantisme disciple de Victor Hugo, donc républicain et révolutionnaire, par opposition au romantisme de Chateaubriand, qui est catholique, nationaliste et contre-révolutionnaire, très particulier à la France. Et ces jeunes gens inventent un idéal de vie qu'ils appellent la vie de bohème avec un accent grave, pas le circonflexe. Le circonflexe, c'est les Roms, les Gitans, les Tziganes, qui viennent de l'Inde du Nord et qui sont quelque part dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la République tchèque. Eh bien, ces jeunes gens inventent un idéal de vie, comme dira Rimbaud, qui fait partie de ces petits groupes de bohèmes, le groupe des utistes et le groupe des vilains bons hommes. Eh bien, ces jeunes gens, comme dira Rimbaud, pensent que la vraie vie est ailleurs. Et pour accéder à cette utopie, aussi bien sur le plan esthétique, artistique, que sur le plan politique, ce qu'on reprendra en mai 68, mais là, on est en 1830 déjà, eh bien, ces jeunes gens pensent que pour inventer cette vraie vie qui est ailleurs, il faut commencer par faire table rase du passé. C'est un héritage à la fois de Descartes et de la Révolution française. Il faut mettre en doute tout ce qu'on a reçu de la tradition. Comme disait génialement Tocqueville au début de la démocratie en Amérique, les Jacobins, les révolutionnaires français, sont des cartésiens sortis des écoles et descendus dans la rue. Ils veulent faire aussi table rase du passé pour inventer un monde absolument neuf, ce que symbolisera le calendrier de l'an 1, eh bien là, mes petits bohèmes, ils vont former des groupes, comme on refera en 68, ils vont se donner des noms qui vont passer dans le langage courant. Et ces noms indiquent tous la volonté de déconstruire les traditions comme préalable à l'invention de cette vraie vie qui est ailleurs, de l'utopie, de l'innovation radicale. Et ces jeunes gens s'appellent les je m'en foutistes, c'est de là que ça vient, parce qu'ils se foutent des valeurs traditionnelles. Ils s'appellent les utistes, Rimbaud, Verlaine font partie du groupe des utistes, là on est en 1860-70. Ils s'appellent les fumistes, c'est de là que ça vient l'expression, t'es un fumiste, quand on dit à son grand-fils ou à sa grande-fille, tu es un fumiste, eh bien ça veut dire le fumiste c'est celui qui se fout de tout, comme les je m'en foutistes. Sont les hirsutes, ils sont comme mon ami Borloo, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, ils ont l'air de tomber du lit directement avec le... Mais c'est ça qui le rend tellement sympathique, c'est amical ce que je dis. Ils ont l'air de tomber directement du lit avec le cheveu en bataille, la joue froissée, la chemise et tout, et ils sont, ces hirsutes, traversés, leur gros, par une image qui est celle, comment dire, du canard sauvage. C'est pas des canards de basse-cour auxquels on a rogné les ailes pour les maintenir au sol. Eux, ils sont bruts de décoffrage, ils ne sont pas embourgeoisés, ils ne sont pas civilisés, policés au mauvais sens du terme. Et donc, on a toute cette histoire de la bohème qui va se terminer à la fin du XXe siècle par un groupe magnifique qui est le groupe des incohérents. Et qui va inventer tous les trucs de l'art moderne. Tout ce que Duchamp, Malevitch vont reprendre, ces petits incohérents. Le chef de file, c'est Alphonse Allais, qui est un homme merveilleux, un grand séducteur, un grand humoriste, et ils inventent des objets qui sont destinés à choquer le bourgeois, et donc toujours casser les traditions, innover. Ils inventent des peignes pour chauves, ils inventent des balançoires de murs pour calmer les enfants turbulents. Alphonse Allais invente un objet que j'adore, il invente un aquarium en verre dépoli pour poissons timides. Et ça les fait beaucoup rire. Mais ils vont inventer les premiers monochromes. Yves Klein et Malevitch n'ont rien inventé. Ils inventent les premiers monochromes. Le premier, c'est le combat de nègres dans un tunnel la nuit. Ça s'appelle le combat de nègres d'abord dans une cave la nuit. Paul Billot, puis Alphonse Allais immédiatement invente un deuxième monochrome qui est un grand monochrome rouge et qui s'appelle la cueillette des tomates au bord de la mer rouge par des cardinaux apoplectiques. Ça les fait énormément rire. Ça, c'est la première histoire de la déconstruction. Et puis je m'arrête là, mais je vous donne quand même la clé de la deuxième histoire. Car c'est la vraie clé du XXe siècle. Et ça, ce que je vais vous dire là, c'est ce qui explique vraiment ce qu'on a vécu. C'est le spot le plus éclairant, si je puis dire, sur ce siècle de déconstruction. La vérité, c'est que ces jeunes gens bohèmes, c'est une histoire magnifique, amusante, mais malgré tout superficielle. Ce qui est derrière, c'est la montée en puissance du capitalisme moderne, de la société libérale, de la société de consommation, de ce qu'on va appeler la mondialisation. Et je vous dis pourquoi d'une phrase. Au fond, ce capitalisme moderne, il est derrière les petits bohèmes comme une racine de glycine pousse votre mur de votre maison de campagne et elle est capable de soulever des tonnes de béton, cette racine de glycine. Eh bien, c'est la même chose. Derrière les bohèmes, il y a les bourgeois qui poussent. Et ces bourgeois qui poussent, eux aussi veulent l'innovation. Dans le capitalisme moderne, la loi du capitalisme moderne, compétition oblige, c'est l'innovation. Regardez vos voitures, vos smartphones, vos ordinateurs, tout change tout le temps, tout innove tout le temps. Et donc ce capitalisme moderne, il est voué lui aussi à l'innovation, c'est-à-dire, c'est le revers de la médaille, à la déconstruction des traditions. Je vous le dis d'une phrase et je m'arrêterai là pour cette première petite salve. Et puis après, pardon, on va reprendre le dialogue. Mais il faut que vous ayez le paysage global, sinon c'est complètement incompréhensible. Hein, parce que vous voyez bien que tout ce que je vous dis là est lié. Et encore, je le dis très vite et très mal. Mais je vais vous le dire d'une phrase. Et cette phrase, pour moi, est la clé du XXe siècle, bien avant mai 68. Mai 68 n'étant que le dernier avatar de cette histoire. Il fallait, et c'est la clé encore une fois, il fallait que les valeurs traditionnelles, les valeurs de mes grands-parents, les valeurs des paysans dont je parlais tout à l'heure, il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites par des jeunes gens plutôt de gauche, plutôt anarchistes, utopistes, à cheveux longs et à barbe, mes petits bohèmes comme Gautier, Nerval, Petrus Borel, Verlaine et tant d'autres, Alphonse Allais. Il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites par ces jeunes gens utopistes pour que nous et surtout nos enfants, nous entrions dans l'ère de la grande consommation de masse. Si mes filles avaient les valeurs de mon arrière-grand-mère que j'ai bien connue, elles n'achèteraient pas 3 téléphones portables par an. Rien ne freine autant la consommation que le fait de posséder une vie intérieure riche. Je vais le dire d'une dernière manière, plus vous avez des valeurs morales, culturelles et je dirais spirituelles fortes et stables dans le cœur et dans la tête, moins vous éprouverez le besoin le samedi après-midi de mettre les enfants à l'arrière de la voiture pour aller acheter des trucs idiots au supermarché du coin. La réconciliation du bohème et du bourgeois, ça s'appelle le bobo, et c'est la figure historique du siècle. Pompidou étant un homme d'ailleurs merveilleux par ailleurs, l'incarnation à mes yeux de cette réconciliation, il est à la fois le bourgeois qui vient de la banque Rothschild, le président de la République le plus bourgeois de l'histoire de la République française, et en même temps, bien que homme de droite, absolument passionné d'art moderne, il dévaste les salles de l'Élysée, à mes yeux, pardon, mais les salles Pompidou sont à mourir de rire tellement c'est laid, et vous avez des espèces de flûtes qui pendent du plafond, ça fait des vagues. Enfin, c'est Jacques Tati, mais il était passionné d'innovation parce qu'il sentait, au fond, cet homme qui vivait dans le capitalisme moderne et pour qui j'ai le plus grand respect. Ses carnets sont d'ailleurs remarquables, qui viennent de paraître, un homme extrêmement intelligent et cultivé. Mais au fond, en tant que moderniste, si vous voulez, aussi bien dans le domaine du capitalisme, de l'entreprise et de la banque que dans le domaine de l'art, il était un passionné d'innovation. Il avait d'ailleurs une Porsche qui était stationnée à l'Élysée, ce qui aujourd'hui serait totalement inimaginable et ferait scandale et lui vaudrait la une du Canard enchaîné pendant 2 ans. Eh bien, il avait une Porsche parce que c'était la voiture la plus moderne, la plus innovante. Et donc, au fond, d'un même mouvement, il aimait Picasso, il aimait sa Porsche et il aimait l'innovation dans l'entreprise et dans la banque. Qui achète aujourd'hui les tableaux des bohèmes? C'est pas l'ouvrier, c'est pas le paysan. À la FIAC, vous ne trouverez pas un ouvrier, pas un paysan, pas plus que dans un concert de Pierre Boulez. C'est évidemment François Pinault, Bernard Arnault, Marc Ladreit de la Charrière que vous croiserez à la FIAC ou à telle ou telle exposition d'art contemporain, mais certainement pas l'ouvrier ou le paysan. Il y a là quelque chose, encore une fois, qui est historial, comme dirait notre ami Robert Legros, ou comme disait avant lui Heidegger. Il y a vraiment dans la réconciliation du bourgeois et du bohème, réconciliation dans l'idée d'innovation radicale et donc de déconstruction des traditions, qui est, je crois, la clé du XXe siècle européen.
Oui, mais alors, justement, c'est pourquoi, à mon sens, il y a lieu d'être inquiet de la mutation anthropologique que cela induit, parce que nous avons suffisamment de recul pour savoir qu'il y a une certaine illusion à croire que sur cette base de la table rase, on puisse véritablement innover au sens d'introduire du véritablement nouveau. Nous produisons peut-être des produits de consommation, mais en revanche, l'humanité de l'homme avait partie liée avec une certaine épaisseur temporelle. Donc moi, ce qui m'afflige dans la crise de la transmission, c'est que nos enfants sont dépossédés de cette sédimentation historique, en sorte que ce qui faisait l'humanité de l'homme, c'était précisément de ne pas être réductible au présent. Or, notre jeunesse n'est plus vieille dans sa tête.
Oui, mais attendez, là vous allez beaucoup, beaucoup trop vite à mes yeux. Il faut d'abord comprendre avant de juger. Il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé avant de porter un jugement de valeur. Le jugement de valeur, à mes yeux, et chacun après fait comme il veut, d'abord, il faut comprendre, et le jugement de valeur doit être, à mes yeux, contrasté. Je parlais tout à l'heure de l'émancipation des femmes. Je pense que c'est la meilleure nouvelle, non seulement du XXe siècle, mais de quelques siècles avant, car j'ai toujours eu la conviction qu'il n'y avait pas d'homme libre sans femme libre, tout simplement. Si je prenais un autre point de repère, que les philosophes trouveront peut-être négligeable, mais les personnes qui sont dans la salle un peu moins, du temps de Victor Hugo, on vit jusqu'à 35 ans. Quand Victor Hugo écrit Les Misérables, quelque part au début des années 1860, c'est publié, si mes souvenirs sont bons, en 63, mais je parle devant l'Académie française, j'espère que je ne me trompe pas, c'est des souvenirs anciens, mais la longévité humaine en France, elle est de 35 ans. Ce que décrit Victor Hugo dans Les Misérables est d'ailleurs la réalité de son temps.
Bien sûr.
Quand vous regardez l'histoire des guerres des religions depuis François Ier jusqu'à la suppression absurde de l'édit de Nantes par Louis XIV, c'est une horreur absolue. C'est monstrueux, monstrueux. Même jusqu'à la Commune de Paris. En 1871, on fusille au poteau des enfants de 5 ans à Paris. Tout ça a disparu. Regardez la guerre de 14, le chemin des dames, le général Nivelle, 360 000 morts en 6 semaines. Bon, tout ça a disparu de ce monde. On ne peut pas non plus en faire économie, comme si vous passez par pertes et profits. Alors là où en effet, et là je vous rejoindrai, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas nous faire du Régis Dubray ou du Alain Finkielkraut trop vite. Il faut regarder avec nuance, parce que sinon ça devient un fonds de commerce, si vous voulez.
Oui.
On gère la misanthropie et la désespérance. Non, je crois qu'il faut regarder les choses objectivement. Les résultats de cette déconstruction des traditions et de cette logique de l'innovation libérale sont assez désastreux dans la sphère de l'école. Et là, je vous rejoins tout à fait, et je parlais tout à l'heure de l'illettrisme. En revanche, sur d'autres secteurs, si vous étiez passionné par la science ou si vous étiez médecins, vous trouveriez ça évidemment merveilleux. Rien n'est plus beau que le XXe siècle de ce point de vue-là. longévité humaine, bon, hein, quelque chose d'extraordinaire, les découvertes scientifiques. Bon. Et donc, on a évidemment, j'évoquais l'émancipation des femmes, on a vraiment, un XXe siècle extraordinairement contrasté. Je ne parle pas évidemment des grands totalitarismes, qui sont les deux catastrophes absolues de ce XXe siècle, mais voilà, il y a un problème scolaire, un problème d'éducation, un problème de transmission,
oui,
voilà,
puisque c'est le sujet. Oui, d'éducation, pas simplement scolaire. D'éducation, c'est tout le rapport adulte-enfant, malgré tout.
Alors, c'est très compliqué, parce que là où notre ami Alain Finkielkraut, que je citais tout à l'heure, mais c'est un ami pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'estime, a raison, c'est quand il parle d'ingratitude, évidemment. On est dans un siècle où voilà, il y a une espèce de liquidation permanente du passé qui est inquiétante. Mais l'équation à résoudre, elle est la suivante. Comment élever nos enfants? Et quand je parle d'élever les enfants, je vise aussi bien l'éducation que l'enseignement. L'éducation, c'est les parents et les enfants. L'enseignement, c'est les professeurs et les élèves. Les mots ont un sens. Mais les deux sont malgré tout liés en ce sens qu'il est très difficile d'enseigner à des enfants qui n'ont pas été éduqués au préalable. Voilà. Et c'est le problème numéro un de l'école. Contrairement à ce qu'on croit, le système scolaire va très bien. Il n'est pas mauvais du tout. Les programmes sont excellents. C'est la famille qui va très mal. C'est quand vous avez des enfants qui vous arrivent épouvantablement mal élevés, et pardon, c'est souvent dans les milieux bourgeois qui sont le plus mal élevés, eh bien parce qu'on a pris l'habitude de consommer, on est dans cette optique que je viens de décrire, eh bien il est quasiment impossible d'enseigner. L'enseignement suppose un préalable qui est l'éducation. Si vous avez des enfants qui sont bien élevés, je parle comme dans les familles il y a bien longtemps, si vous avez affaire à des enfants qui sont bien élevés, vous pouvez enseigner, mais si les enfants sont mal élevés, vous n'y arrivez pas. Voilà. Et on a des profs qui sont pas mauvais, les concours de recrutement sont très difficiles, vous en êtes d'ailleurs un exemple, on a des maîtresses de maternelle, des maîtresses d'école qui la plupart du temps sont absolument remarquables. Je dis des maîtresses parce que c'est un métier qui aujourd'hui est presque entièrement féminisé. Les maîtresses de mes filles, ce sont des saintes laïques, cultivées, intelligentes, qui s'expriment bien. Elles ont vraiment beaucoup de mérite. Mais quand on leur envoie des enfants épouvantablement mal élevés, quand le brouhaha, et pas le cas ce soir, est en permanence dans la salle de classe, eh bien c'est extrêmement, sans compter que dans certains quartiers, les insultes et même les violences fusent en permanence, eh bien c'est extrêmement difficile d'enseigner. Voilà. Et ça, voilà, ce XXe siècle est très contrasté à cet égard. Sur le plan éducatif et scolaire, c'est une assez grande catastrophe. Sur d'autres secteurs, c'est une formidable réussite. Et donc l'équation, c'est comment concilier les deux.
Oui,
c'est ça le problème.
Mais justement, l'héritage, alors, de la décennie 60-70 a précisément été de, avec cet alibi de la liberté de l'enfant, de ne plus être dans la normativité. En sorte que, où je vous rejoins parfaitement, le problème est au niveau du dispositif et du rapport adulte-enfant. Et donc, je pense qu'à force de vouloir laisser trop de liberté à cet enfant, on a atrophié aussi des facultés qu'il pouvait développer exclusivement à certaines conditions.
C'est pourquoi tout le monde revient aujourd'hui de cette rénovation pédagogique, oui. Y compris, curieusement, à gauche. C'est-à-dire que tous ces anciens 68ards qui se sont engagés dans ces méthodes hyperactives, dans cette rénovation pédagogique complètement folle, c'était quoi? C'était, on supprimait le cours magistral, on remplaçait les dictées par des autodictées, on remplaçait les rédactions par des textes d'invention, on remplaçait un bon petit cours d'histoire par un travail sur les documents. Bon, vous savez, c'est comme quand on offre un microscope à Noël à son petit garçon, qui a 6 ou 7 ans, qu'est-ce qu'il voit? La prochaine chose qu'il voit, c'est son doigt, il voit pas autre chose. Bon. Et donc, c'est ce travail sur les documents qui a remplacé le cours magistral a produit des effets désastreux. Bon. Et c'est vrai que, notamment en matière de maîtrise de la langue, cet enfant roi qui ne respecte pas les traditions, qui n'a pas l'humilité face à la transmission, ça a été véritablement un désastre. Mais c'est quoi l'éducation? Allons-y. L'éducation, c'est 3 choses. Pas 4, pas 2, il y en a que 3. Fondamentales. Si vous réfléchissez vraiment, vous verrez que ce que je vais vous dire là est absolument évident, même si, pardon, je dis sans fausse ni vraie modestie, sincèrement, c'est très profond quand on y réfléchit. L'éducation, c'est, je dirais dans mon vocabulaire, chrétien, juif et grec pour nous, les occidentaux. Chrétien, c'est l'amour. Première chose à transmettre à ses enfants, l'amour, parce que si vous n'avez pas transmis l'amour, vous ne donnez pas cette confiance en soi, tout simplement, cette estime de soi, cette capacité, comme dit Boris Cyrulnik, de résilience face aux accidents de la vie. C'est très important, évidemment. C'est l'élément chrétien. Pas juif et chrétien, parce que le Lévitique, 1500 ans avant le Christ, prononce déjà, c'est Lévitique 19:2, il est déjà écrit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc ça vient des Juifs, c'est pas simplement chrétien. Mais enfin, la philosophie de l'amour, la théologie de l'amour, elle va s'épanouir de manière extraordinairement profonde et sublime dans la religion chrétienne, et notamment dans un texte magnifique qui est les Confessions de Saint-Augustin. Et puis le deuxième élément, c'est la loi, c'est Moïse, c'est les Juifs. Si vous ne donnez pas la loi et l'autorité de la loi à vos petits, enfants ou petits-enfants, à vos enfants ou petits-enfants, d'abord vous les rendez fous, vous ne leur permettez pas d'entrer dans cet espace de la cité, tout simplement, de la civilité, en tous les sens du terme, citoyenneté, civilité, politesse pour l'appeler par son vieux nom. Quand le petit garçon est là, le soir, autour de la table où on a mis le champagne et les cacahuètes pour recevoir des amis, il a 3 ans, ce petit bébé, il est là, il met le champagne dans le cendrier dans le champagne, tout le monde a envie de l'étrangler, sauf les parents qui le trouvent admirable, évidemment. Qu'est-ce qu'il attend? Il vous regarde comme un moineau. J'aime bien les moineaux parce que c'est insolent. Ça tourne la tête comme ça en vous regardant. Il attend qu'on lui dise non. Principe fondamental de l'éducation juive traditionnelle, que votre non soit un non, que votre oui soit un oui. Ne négociez pas avec vos enfants, ou très peu. Et troisième principe, évidemment, la transmission des grandes œuvres, des grands savoirs. Mais les grands savoirs sont déposés dans des grandes œuvres. Le don des morts, comme dit notre académicienne, eh bien, ces grandes œuvres, c'est ce qui nous permet de nous comprendre nous-mêmes. Rien n'est mieux pour un enfant, même très petit, que d'entendre raconter l'Odyssée d'Homère et les grands mythes grecs et les grands mythes bibliques, chrétiens ou juifs. Eh bien, ces grandes œuvres, c'est ce qui nous permet de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre le monde. Comment transmettre ces 3 éléments fondamentaux? L'amour, la loi, les œuvres. Chrétiens, juifs et grecs, comment transmettre cela et comment rendre, encore une fois, cette transmission compatible avec ce monde de l'innovation et de l'érosion permanente auquel, par ailleurs, nous ne voulons pas renoncer, parce que nous voulons vivre vieux, parce que nous voulons de la médecine, que nous voulons des scanners performants, parce que nous voulons des voitures confortables et sûres, et que malgré tout, il y a 70 millions de téléphones portables en France. Ce qui veut dire que même les arrière-grand-mères en ont un aujourd'hui. Et voilà, comment concilier ce monde de l'innovation et le monde de la transmission? C'est l'équation fondamentale. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je dis à mes amis chefs d'entreprise, qu'est-ce que vous voulez? Mes amis républicains de droite, c'est les mêmes. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez fabriquer un peuple de zappeurs consommateurs imbéciles, mais qui consomment à haute dose, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, parce que l'érosion des valeurs traditionnelles livrent nos enfants à la consommation addictive? Est-ce que vous voulez fabriquer un peuple d'enfants zappeurs consommateurs addictifs, ou est-ce que vous voulez fabriquer un peuple d'enfants profonds, intelligents, réfléchis et si possible bien élevés? Les deux ne coexistent pas dans le même bonhomme. C'est ça la question de l'éducation aujourd'hui. C'est pas la question de telle ou telle réforme. C'est pas une question droite-gauche. Ça n'a aucun intérêt, ces conflits droite-gauche. C'est la question de savoir comment concilier le monde de la transmission traditionnelle, patrimoniale, les héritages. Et encore une fois, rien n'est plus traditionnel que la langue, la civilité et ce monde de l'innovation dans lequel nous sommes plongés et auquel personne ne nous fera renoncer non plus. La concurrence, que vous le vouliez ou non, c'est la réalité, c'est de ça qu'il faut partir. La concurrence entre ces petits objets et Germinal ou Au bonheur des dames de Zola, elle est, ou au Père Goriot, elle est immense. Pourquoi? Parce que ma fille qui a 13 ans, toujours elle l'oblige à lire en ce moment Au bonheur des dames, qui est d'ailleurs un très beau livre. C'est un livre, j'ai relu, c'est un livre magnifique.
Moi aussi, j'ai relu très récemment.
D'ailleurs, il y a un film, un vieux film, qui est assez charmant, parce que c'est du noir et blanc. On parle comme dans les actualités de 1942. Le film est presque aussi vieux que le livre, si je puis dire, mais et donc assez touchant. C'est un livre magnifique. Mais quand moi-même, je relis ça, j'adore l'éducation sentimentale. Bon, mais vous tombez sur des tunnels, si je puis dire, des descriptions. Alors, dans Balzac, c'est, n'en parlons pas, le Père Goriot, c'est voilà, qui sont tellement longues. Alors, c'était créé à une époque où les gens lisaient ces livres à la bougie. Il n'y avait pas de télévision ni de cinéma. Et donc, ils étaient très heureux d'avoir un livre qui dure longtemps, si je puis dire. Bon. Mais si vous comparez aujourd'hui au dernier James Bond, où il se passe 12 catastrophes dans les 2 minutes, et c'est là-dedans que vivent nos enfants, eh bien, la concurrence est très difficile. Donc, comment faire pour contrecarrer cette concurrence. Il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de dire « je me retire du monde ».
Mais nous, en revanche, nous avons été nourris par cela et on sait le bonheur qu'il y a à avoir l'exactitude du mot, l'exactitude de la description.
Le problème est comment y arriver. Ce n'est pas le problème de savoir quelles sont les valeurs.
Je préfère
infiniment au bonheur des dames à un dessin animé japonais.
Mais on peut en faire la démonstration.
Mais non, c'est ça qui est très difficile. La démonstration est très difficile à administrer. Au bonheur des dames, je le répète, c'est mieux que les Simpsons. Bon, le problème, mais c'est évident. Le problème, c'est que mes filles, qui pourtant sont dans un milieu bourgeois, 7e arrondissement, filles de ministre de l'Éducation, avec toute l'autorité que je peux avoir et la passion pour les livres qui est la mienne. Et en effet, j'ai traduit Kant pendant 15 ans. Bon. Et donc, malgré ça, je le vois, les Simpsons passent mieux qu'au bonheur des dames. Il n'y a rien à faire. Donc, qu'est-ce que je fais pour contrecarrer ça? Eh bien, ce que je fais, si j'ai un conseil à vous donner, c'est parce qu'en classe de terminale, tout est fichu à ce niveau-là, c'est trop tard. Il faut commencer à 4 ans, à 5 ans, raconter des histoires à vos enfants.
Voilà.
Lisez. Mais quand vous regardez le fond du fond de la vie des Français aujourd'hui, c'est 1 milliard de fois plus la télévision et les jeux que le livre. Bon, dire le contraire est simplement une contre-vérité. Bon, et donc le problème que je pose, c'est concrètement, comment on fait pour contrecarrer cette concurrence déloyale? Voilà. Et je dis bien déloyale parce que, encore une fois, sur nos enfants, les Simpson ou Bob l'éponge, ça marche mieux qu'au bonheur des dames. Donc comment on fait pour les convaincre? Eh bien, je dis, faites cette chose qui est cruciale, et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre qui s'appelle « La sagesse des mythes » pour raconter les mythes grecs, en partant, non pas comme dans les contes et légendes, des versions archaïques, c'est-à-dire entre le 8e siècle et le 5e siècle, parce que les premières versions sont 1000 fois plus belles que les versions dérivées. Vous savez, la mythologie grecque, ça s'étend sur 13 siècles. Ça commence avec Homère et Hésiode au 8e et 7e siècle, et ça se termine avec Nonos de Panopolis au 5e siècle après. Et donc, on a vraiment une très longue histoire, et j'ai raconté ces grands mythes grecs dans leur version originale pour que les parents puissent les raconter aux enfants. Faites la même chose avec les mythes bibliques, avec l'Évangile, même si vous n'êtes pas croyant ou croyante, ça n'a pas d'importance. Et puis les contes de fées. Les contes de fées, il y en a des magnifiques. Et si ça tient la route depuis des siècles, ça n'est pas pour rien. Bon. Et donc je pense qu'il faut commencer très tôt et que ce temps qu'on passe avec les tout-petits, quand ils ont 5 ans, 6 ans, jusqu'à 11, 12 ans, après ils se débrouillent par eux-mêmes, c'est un peu plus difficile, on leur lit plus des histoires au lit, mais ce temps que vous passez avec eux, grands-parents ou parents, ou arrière-grands-parents, c'est probablement le plus bel investissement qu'on puisse faire, ou le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Parce qu'on leur donne très tôt, mais par le fait, pas par les discours de prof, mais on leur donne par le fait. Mais c'est vous qui cherchez à nous opposer. Encore une fois, on est d'accord.
Mais pas du tout. Mais justement, vous êtes l'illustration même que, en passant par la dimension narrative, on touche quelque chose chez les...
Oui,
donc,
mais...
Voilà, donc je ne m'oppose pas, mais je pense qu'on... On n'a pas...
Voilà, et je pense que les gens le comprennent aujourd'hui. Je vois, j'ai des amis autant ou plus à gauche qu'à droite. Moi, je ne suis pas sectaire. D'ailleurs, quand on voit l'état de l'UMP aujourd'hui, on voit que les clivages ne sont pas forcément droite-gauche. Mais ce que je constate, c'est que même à gauche, même ces anciens de 68 comprennent aujourd'hui que par amour pour leurs enfants, c'est un motif moderne, il faut transmettre la loi et les œuvres. Et au fond, la grande difficulté, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Et ce qui est très embêtant dans le débat absurde entre les néo-républicains d'un côté et les pédagogues de l'autre, c'est que les pédagogues disent des bêtises, les républicains disent la plupart du temps des choses qui sont vraies, mais ils les disent avec si peu de solutions que ça ne sert absolument à rien. C'est ça le fond du problème. Quand vous lisez les livres de Brighelli, La fabrique du crétin, ça a un succès fou parce que c'est... les gens sont contents, ils se disent, surtout le lecteur du Figaro, il se dit, enfin, on montre que l'école, c'est la fabrique du crétin, qu'on décérèbre nos enfants, tout ça. Mais le problème, c'est comment faire? Comment faire? Une fois qu'on est d'accord sur l'objectif, comment on y arrive? La concurrence est déloyale, chers amis. Elle est déloyale avec le dessin animé, avec la télévision, et avec ces petites choses qui sont formidablement sexy. C'est bien fait, ces petites choses. C'est séduisant, c'est amusant, c'est très intelligent aussi. C'est plein de couleurs, c'est plein d'images, c'est plein de beauté. C'est très marrant. Et donc, voilà, quand vous mettez le père Goriot d'un côté et l'iPhone de l'autre, eh bien, je vous garantis que voilà, c'est comme le rat quand il a une bifurcation, qu'il y a d'un côté du poison et de l'autre le gruyère, eh bien, il va vers le gruyère. Et ça, malheureusement, c'est le problème urbain. Si on veut combattre ça, il faut commencer très tôt. Et le seul moyen, c'est pas de le dire, c'est de le faire. C'est de donner aux enfants le sentiment que nous avons tous comme lecteurs. Quand on a lu un livre magnifique, on voudrait tout de suite le tome 2. Là, on a gagné, parce que l'enfant va comprendre qu'il y a des valeurs au-dessus de la sphère de la consommation pure. Et ces valeurs, il y en a deux. Il y a l'amour, évidemment, qui est beaucoup plus important que la consommation. Ça, ils le savent quand même assez tôt, dans une famille normale où ils sont aimés. Et puis, il y a évidemment les grandes œuvres. Mais ça, c'est un combat. C'est comme la politesse. Tous ceux qui ont des enfants le savent, c'est pas d'un coup que vous y arrivez. Faire en sorte que vos enfants soient capables de dire bonjour, monsieur ou madame, pas simplement bonjour, mais déjà bonjour c'est pas mal, mais qu'on ait la totalité, c'est un combat quotidien de plusieurs heures par semaine. Et ben c'est la même chose avec ces grandes œuvres. Et si on les trompe, c'est ça le problème, si on leur donne des choses qui sont trop difficiles pour eux, des livres qu'on a trouvés formidables, le père Goriot, on a trouvé ça formidable quand on était gamin, mais c'est plus ce qu'ils peuvent véritablement lire aujourd'hui, ou très difficilement. Au fond, si on les trompe ou si on se trompe soi-même dans ce qu'on leur donne comme nourriture spirituelle, intellectuelle et culturelle, on les dissuade. C'est pour ça que la pédagogie est un art extraordinairement difficile.
Je suis la première génération à avoir eu des adultes qui avaient renoncé à nous transmettre ses œuvres, précisément au nom de cet alibi de la liberté, de la jeunesse.
Et on en est revenu.
Donc, si vous voulez, simplement, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait cette démagogie de certains adultes qui, aujourd'hui, y renoncent. Et vous, vous êtes l'exemple même de ceux qui n'ont pas renoncé.
Ce que je voulais
dire, c'était...
Donc,
c'est juste ça, c'est que je sais aussi ce qui peut... quelles ont été les conséquences d'une génération qui a été formée dans l'oubli.
Voilà, mais je voulais simplement qu'on fasse un pas de plus, qu'on sorte de ce débat absurde entre néo-républicains et pédagogues, et qu'on... La difficulté étant de dire, même à des gens de très bonne volonté, convaincus par ce que vous venez de dire, comment faire? Voilà, c'est ça la grande difficulté. C'est plus d'être dans le débat 68-art entre les pédagogues modernistes pour la liberté de l'enfant, libres enfants de Sœur Meurie, le maître camarade et toutes ces âneries. C'est pas d'être comme mes amis néo-républicains purs et durs qui sont dans la consternation de la désolation et qui veulent remettre les blouses grises et les plumes sergent-major. C'est de dire à des gens de bonne volonté, à des professeurs de bonne volonté, et beaucoup le sont aujourd'hui, beaucoup, parce qu'ils voient bien le désastre du post-68-tardisme, de leur dire comment faire. Et c'est là qu'ils sont perdus, parce que c'est très difficile.
Et justement, quand
et
vous avez été
aussi
ministre de l'Éducation nationale, c'est une chose qui m'avait particulièrement séduite, c'est concernant l'enseignement de la philosophie, j'aimerais vous interroger sur cette question. Vous avez été justement de ceux qui ont pris acte de ce que le programme tel qu'il était élaboré aujourd'hui présentait de terribles lacunes. Et donc vous ne cessez depuis lors de répéter qu'il faudrait transformer cet enseignement. Et là, il y a un véritable appel des élèves même en ce sens. Alors ça, j'aimerais justement que vous reveniez sur les réformes qu'il faudrait envisager dans l'enseignement précisément de la philosophie.
Écoutez, pour moi, c'est un très grand désaccord avec beaucoup de mes collègues. Il y a 6000 professeurs de philosophie en France et au moins la moitié sont en désaccord avec ce que je vais dire. Et donc, comme ministre, je n'ai évidemment pas voulu profiter de ma position pour imposer les choses. Ça n'a pas de sens. On ne fait pas une réforme contre 3000 collègues, contre 50% de ses collègues. Bon. Donc ça n'avait pas de sens. Je pense que il faut absolument, comment dire, je pourrais vous expliquer pourquoi, abandonner assez largement, pas totalement, mais ce fichu programme de notions, qui n'a à mes yeux à peu près aucun sens, pour transmettre, alors pour le coup, une histoire intelligente de la philosophie. Depuis Hegel, depuis la mort de Hegel en 1831, l'histoire de la philosophie est devenue philosophique, aussi bien chez Nietzsche que chez Heidegger, que chez Hegel lui-même. Et donc on a, je crois, un devoir d'enseigner les grandes visions morales du monde. C'est ça qu'on doit enseigner. C'est pas... Nous sommes, Bernard de Clairvaux, des nains juchés sur le dos de géants. Il faut enseigner d'abord les grandes visions du monde qui ont scandé l'histoire de la pensée, y compris d'ailleurs les grandes visions religieuses qui sont passionnantes, notamment la chrétienne. Je parlais tout à l'heure de saint Augustin et de la théologie de l'amour, qui est une merveille, même pour un non-croyant. Et donc je pense que la première chose à faire, c'est de faire un enseignement intelligent de l'histoire de la philosophie, non pas au sens historien du terme, mais au sens des grandes visions du monde, ce que j'ai fait dans mon livre « Apprendre à vivre » d'ailleurs, parce que je crois que c'est totalement indispensable de se situer d'abord par rapport à cette histoire, même si, et là je rejoins mes collègues, l'idéal est de parvenir à penser par soi-même. Bien sûr que c'est l'idéal. Mais on ne pense pas par soi-même sans commencer à penser avec humilité par les autres et avec eux. Et
voilà, ça c'est ce que vous
sans
avez
Kant,
toujours
sans
dit.
Sans Kant, sans Aristote, sans Hegel, je n'aurais jamais pu penser si peu que ce soit par moi-même. Ça n'a pas de sens. Et en plus, c'est génial et passionnant. C'est-à-dire, ces gens, vous savez, c'est comme des châteaux magnifiques, comme c'est comme Chambord ou Azel-Rideau, bon, ou comme un temple grec. C'est des merveilles et il faut les faire visiter à nos enfants. Et ça les passionne en plus. Plutôt que de couper des cheveux en quatre sur des questions stupides auxquelles, qu'est-ce que l'espace, quel que le temps. Mais j'en sais rien, je suis un foutu de répondre à la question. Je peux faire une dissertation où j'aurai 19 au bac, oui, et même peut-être à la grecque, enfin 19, mais en tout cas. Je l'aurai. Mais, donc, je sais faire une dissertation. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est absurde. Et je pourrais vous raconter comment ces programmes de philo ont été inventés, mais c'est pas le sujet de ce soir. Mais c'est vrai que c'est un héritage. Vous savez, dans les écoles grecques, il y avait au 5e siècle, 4e, 3e siècle encore avant Jésus-Christ, il y avait des écoles grecques magnifiques. Il y avait l'Académie de Platon. Toutes portaient des noms qui étaient liés au lieu, à Athènes, où elles étaient construites, ces écoles. Là, en l'occurrence, près d'Académos, le sanctuaire d'Académos, peu importe. Le lycée d'Aristote, la Stoa et des Stoïciens, le jardin d'Épicure, il y avait toutes ces écoles magnifiques. Elles étaient bondées, pleines à craquer. Et qu'est-ce qu'on enseignait dans ces écoles? Le thème majeur, c'était apprendre à vivre. Et il y avait des exercices de sagesse. Pierre Hadot a raconté ça magnifiquement. Les exercices de sagesse, par exemple, dans l'école stoïcienne, qui était un héritage des cyniques, les chiens, on apprenait aux enfants, pas aux enfants, aux disciples, ça pouvait être des adultes, on leur faisait tirer un poisson mort, un gros mulet, sur la place du marché à Athènes. Quel était le but de cet exercice? Le malheureux qui tirait son mulet sur la place du marché à Athènes, eh bien, il était évidemment victime de tous les quolibets, on se moquait de lui, on lui disait « mais tu es fou, c'est pas un petit chien, c'est un poisson mort et c'est dégoûtant, ça pue ». Enfin bon, alors le but de l'opération, c'était de parvenir à ce que les chrétiens appelleront la conversion, c'est-à-dire le détournement du regard, de l'inessentiel vers l'essentiel, se moquer du « qu'en dira-t-on ?», se moquer du regard des autres pour apprendre à détourner le regard vers ce qui est vraiment important, à savoir l'ordre du monde, le cosmos, la nature, bon… Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée était d'apprendre à vivre, de parvenir à la sagesse, à la vie bonne. Par exemple, être capable d'habiter le présent. Les Grecs pensaient, aussi bien les épicuriens que les stoïciens, que deux mots MAUX pèsent sur la vie humaine, le passé et le futur. Le passé nous tire en arrière, le futur en avant. Il nous empêche d'habiter le présent, de vivre dans ce présent qui n'est pas le présent de la consommation, mais qui est le présent de l'instant éternel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, toutes sortes d'exercices étaient liés à ces idéaux qui définissaient la vie bonne ou la sagesse. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec la victoire du christianisme sur la philosophie grecque? Eh bien, dans tout le Moyen-Âge chrétien, et notamment à partir du XIIIe siècle, on le voit, saint Thomas lui-même est excommunié. On va retirer aux philosophes le droit de parler des questions ultimes. On va leur retirer le droit de parler de la sagesse, de la vie bonne, d'apprendre à vivre, parce que c'est réservé à la religion. Et du coup, on va renvoyer la philosophie à ce qu'on appellera la scolastique, c'est-à-dire une discipline scolaire, qui est vouée uniquement à l'analyse des concepts. L'être, l'essence, l'attribut, la substance, le bien, le mal, le juste, le beau. Et donc la philosophie va devenir une scolastique, c'est-à-dire une analyse conceptuelle des mots, si je voulais. Ce que Kant appellera la philosophia generalis. Eh bien, au fond, notre programme de philosophie, il est l'héritage, paradoxalement, de cette victoire de la religion chrétienne sur la philosophie grecque. Et donc, je pense que c'est très dommage. Pierre Hadot, encore une fois, qui était un grand professeur au Collège de France et un des plus grands spécialistes de l'Antiquité grecque, a très bien montré comment cette victoire du christianisme avait dévasté littéralement la philosophie et éradiqué ce qui était son idéal principal, qui était, encore une fois, philosophia, parvenir à la sagesse. Et donc, je pense que, à défaut d'enseigner la sagesse, je n'aurais pas cette prétention. Je pense qu'il faut enseigner les grandes doctrines de la sagesse, les grandes visions du monde qui ont parlé de la vie bonne et qui sont sublimissimes, plutôt que d'apprendre à faire des dissertations stupides pour passer un concours ou pour devenir soi-même professeur. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc, là-dessus, j'ai réussi à convaincre à peu près la moitié de mes collègues, mais c'est pas suffisant en démocratie. Il faut un petit peu plus.
Vous venez d'assister à la première conférence du nouveau cycle « Penser le présent » organisé par le Comité d'animation culturelle de la mairie du 1er arrondissement. La prochaine conférence aura lieu le 30 janvier 2013. Bérénice Levet, docteur en philosophie, prix Montyon de philosophie et de littérature 2012 décerné par l'Académie française, recevra Pierre Rosenberg de l'Académie française.